CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Or à Bastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Un qu'est-ce qu'on déguste, confortablement installé dans notre studio Montalbanais. Nous sommes en compagnie de Pascal Olivier. Bonjour Pascal.
Salut à tous.
Qui a lu pour nous les gastronomes de l'extrême et donc qui a pris aussi un rendez-vous pour le premier quart d'heure de cette émission avec son auteur. Il s'agit de
Bruno Fulini.
Bon ben voilà, on l'aura dans quelques instants au téléphone. C'est un bon bouquin ça, ouais.
C'est très marrant. C'est une compilation de tas de choses que l'on peut, que l'on a pu manger ou qui étaient faits de par le monde. Alors ça se fait peut-être moins maintenant, mais une brouillade aux zébus malgaches, c'est pas courant. Les poussins égyptiens, les tortailles, la salade coloniale, les cornichons de papaye, enfin il y a des choses, des sauterelles, etc. Un petit peu comme ce qu'on a sur la table.
Et voilà, donc on va en parler de nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, je finis le tour de l'équipe. Salut Christophe.
Bonsoir tout le monde.
Ça va ?
Ça va bien. Moi, je vais vous dire pourquoi manger des insectes et quel est l'intérêt de manger des insectes. Parce que moi, j'en mange tout le temps. C'est au quotidien.
Très régulièrement. Bonjour Georges.
Oui, moi aussi, j'en mange de temps en temps l'été quand je baille. Il y a des moustiques.
Ou des mouches. Ben moi j'ai mangé une mouche une fois, ben c'est pas bon. Hein.
Qu'est-ce que tu nous feras écouter aujourd'hui ?
Aujourd'hui je vais vous parler d'un concert qui va avoir lieu à Montpezat de Quercy avec l'orchestre Contrebande qui fait un hommage à Georges Brassens en chantant en jazz des chansons de Brassens.
Alors on va effectivement déguster aujourd'hui des insectes, c'est la faute au départ à Jérôme à la maison des pâtisseries Alexandre,
ah,
qui m'a passé un coup de fil, qui m'a dit Rémi, pour Halloween je fais des succulents petits chocolats, est-ce que tu veux les goûter ? Je dis oui de suite, viens. Ah bah écoute, d'accord, on a pris rendez-vous, mais le problème c'est qu'il y a des insectes dedans.
A priori ça n'a jamais tué personne.
Et ben heureusement, en tout cas pas Emmanuel Kienast, qui est la patronne des 400 goûts, cette petite boutique qui a ouvert pas loin de chez Simon, la cave bleu blanc rouge.
Bio blanc rouge.
Il n'y arrivera jamais, ça fait 15 ans, il n'y arrivera jamais.
Et qui, justement, commercialise dans sa jolie boutique, pas que, mais des insectes.
Absolument, c'est vrai.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être là. Je n'ai pas dit bonjour Jérôme, salut Jérôme.
Et bonjour à tout le monde.
Et Jérôme qui est venu avec Lynn Thébault, qui est chocolatière.
Bonjour
pour,
à tous.
La pâtisserie Alexandre, ça va bien ?
Ça va, ça va.
Ça ne vous a pas fait peur de travailler le chocolat avec ces petites bêtes là ?
Non, c'est pas quelque chose que j'aurais fait avant, mais associé au chocolat, c'est quelque chose qui m'a plutôt donné envie de faire, oui.
Ouais, ça, est-ce que ça grouillait ? Est-ce qu'on vous a amené des asticots comme quand on va acheter des trucs pour aller à la pêche ?
Je vous avoue que je me suis fait un petit peu peur quand j'ai secoué le paquet, j'avais l'impression qu'il bougeait un peu, mais non, en fait, ils sont bien grillés et séchés.
C'est qu'est-ce qu'on déguste à la santé.
Et les joies de l'alimentation.
Et ça démarre comme ça.
Un petit tour au Canada avec un groupe que j'affectionne particulièrement, The Soul Jazz Orchestra, avec le morceau Freedom No Go Die. Et c'est de l'auto-promo puisque ça va être un peu le style de musique que je passe ce soir dans le bar Lulu la Nantaise, place du Coq, à partir de 19h30. Et oui, Rémi, j'ai fait mon auto-promo.
Tu fais ton auto-promo. Oui, c'est une émission maintenant, on fait son auto-promo.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Pendant ce temps, toi, tu mangeais des insectes.
Bah, écoute, oui, pour le prouver, j'ai filmé ce moment qui a été d'une grande première pour moi, tu vois. Il a fallu, c'est la première fois de ma vie que je mangeais un grillon, ou alors j'étais petit et je m'en rappelle pas.
Même en Afrique.
Mais oui, même en Afrique, non, j'ai jamais, ou alors j'ai pas fait exprès, encore une fois. Et donc là, je viens de déguster une petite douceur de chez Alexandre, un petit chocolat. Avec un grillon dessus. Je dois dire que j'ai encore une patte ou une antenne qui est coincée dans une dent. Faudra effectivement prévoir pour les dégustations demain à la boutique, mon cher Jérôme, des cure-dents.
Des cure-dents. Vers le farine, c'est pas mauvais.
C'est craquant, oui.
C'est craquant.
Et alors, craquant, voilà. Croquant.
Ouais.
Donc là, j'attaque
le verre de farine.
Le verre de farine.
Okay, bon,
et ce qui va vous donner l'occasion, pendant que je vais mâcher, peut-être de nous expliquer d'où est partie l'idée, Jérôme, de cette histoire.
Ben l'idée elle est partie de ma chocolatière, surtout de Lynn, qui c'est elle la première qui s'est dit ce serait bien peut-être de faire des chocolats à base d'insectes. Je dois dire que sur le coup ça m'a un petit peu interpellé. Je dois dire que je fais pas partie des gens qui ont coutume de ce genre de choses. Et puis après on a pensé à Halloween et on s'est dit que l'intérêt c'était peut-être justement de lier un petit peu l'événement d'Halloween avec justement cette dégustation un petit peu hors du commun.
Alors, on sent vraiment beaucoup le chocolat.
C'est l'intérêt. Hein.
On peut se le dire, ça n'a pas réellement de goût. Je viens de manger un verre, enfin trois verres.
Ça n'est fourmi.
Mais quand même en boire un.
Hein. Ouais.
Les verres de farine, on a tous mangé sans le savoir, parce que dans le pain, il y en a.
Ah bon, tu prends ton pain où, toi?
Il est énorme, non, mais quand même. On veut des normes.
Je sais pas, j'ai tellière. Non, quand même pas. Les boulangers sont quand même des gens.
Non, mais c'est ça.
Ça peut arriver. On a trouvé des souris dans le pétrin. On a trouvé des cafards une fois dans une coque.
Oui. On dira pas d'où.
Ouais, une coque des rois. Oui.
Donc c'était la fête.
Ouais, ils étaient avant-gardistes, quoi.
Tout
ils avaient déjà
voilà.
pensé à mettre. Voilà,
Emmanuel Kienast.
Présente.
C'est vous qui commercialisez ça dans votre boutique. Ça n'a pas c'est vraiment bon. De goût quand même.
Ça craque.
Ça n'a pas énormément de goût, c'est vrai. Nature, certains ont un petit goût de noisette, d'autres un petit goût de cacahuète, certains ont un petit goût de poulet. Et c'est la raison pour laquelle ils sont tous aromatisés. C'est des verres déshydratés, tout secs et croustillants, et aromatisés pour l'apéro.
Voilà, c'est terrible. Et donc, non, mais en même temps, c'est une super idée de se faire ça pour Halloween à l'apéro. Ça, moi, je veux bien goûter ces longs verres. Là, alors, c'est possible. Ça, qu'est-ce qu'on a?
Alors, déjà là, vous avez des grillons au goût barbecue. Faut y aller. Hein.
Alors, au goût barbecue.
C'est quoi le nom de l'émission?
Goût barbecue, hein. Attends.
On a déjà bu du bizarre. On a mangé du bizarre, jamais.
Non, Emmanuel, alors, tous les deux, vous en prenez un, j'en prends.
Moi, je suis une coutumière, j'en mange très régulièrement.
Oui, je vous crois.
On avait mangé une boîte de conserve de chez Leader Price. C'était pas du bizarre, ça.
Tiens, tu prends un grillon, toi aussi. Donc, ça, c'est un petit grillon.
Ça, c'est un grillon.
Grillons qui sont gentils, qui font cri-cri, quoi.
Exactement.
Mais le goût barbecue, il est mis comment?
Mais tu te rends compte du temps qu'il faut pour attraper les grillons avec une paille?
Il faut du thé, hein.
Il faut tuter le grillon. Hein. Oh, j'en prends deux d'ailleurs.
Écoute,
hop.
Moi je serais bien au bout d'un moment à les prendre par pincée parce qu'effectivement.
Ouais. On dirait des chicharrones là, ou des fritons d'apéritif. Sauf qu'il n'y a pas le goût canard.
Bah là il y a le goût barbecue. En fait il y a du E232 sur du grillon quoi.
Bah, disons que si vous prenez c'est l'exemple des verres géants dont vous me parlez, la composition c'est verre géant, persil, thym, ail et sel. Il n'y a rien d'autre.
D'accord.
Il n'y a pas de graisse ajoutée, mais conservateur. Le goût barbecue,
c'est quand même meilleur que les chips. Quoi. C'est quand même, diététiquement, c'est quand même vachement meilleur
que les
chips.
Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup moins gras, c'est plein de protéines.
Il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de saloperie, il n'y a pas de conservateur, de machin.
Puis, le goût barbecue doit être cancérigène.
Oui, non, mais
alors, cancérogène.
Maintenant, il faut dire cancérogène.
Oui, ouais. Non, mais
les cancérogènes, c'est vraiment
rongène. Grillons à la taille, vous avez des grillons, de la citronnelle, des feuilles de kaffir et du sel. Pour ceux au barbecue, je n'ai pas la composition.
Là, je pense que vous avez toutes les protéines qu'il faut pour la journée avec une poignée
absolument.
D'insectes.
Mmh. Absolument. Bon, c'est vrai qu'en France, on n'est pas encore prêt à changer notre bon steak frites contre une assiette d'insectes. Mais voilà, c'est une approche ludique, rigolote, découverte pour l'apéro. Quoi.
Ça fonctionne bien, plus, ça, y a comment les gens,
Ça fonctionne bien parce que les gens sont ouverts, sont curieux, ils ont envie de découvrir quelque chose. Ils ont envie surtout de faire des apéros rigolades. Et vous êtes sûr que ça marche à tous les coups.
Mais est-ce qu'ils reviennent?
Oui.
Ah bon, donc c'est
oui,
ça.
Parce que le pire, c'est que enfin, moi, personnellement,
vous en vendez vraiment, ouais.
Ah non, mais pour de vrai. On avait décidé dès le début d'avoir un coin vraiment insolite dans notre boutique. On a quelques gammes insolites et novatrices, et entre autres les insectes. Et on est content de l'accueil qu'ils reçoivent.
Emmanuel, vous allez nous présenter votre boutique tout à l'heure, parce que c'est vrai que qu'elle est récente, la boutique 400 Gours, rue du Greffe à Montauban. On écoute un peu de jazz tout de suite dans Qu'est-ce qu'on déguste. On appelle
Bruno Fellini pour l'auteur. Les gastronomes de l'extrême.
Parce qu'on trouvait que ça collait bien quand même, hein,
ah oui.
Avec
ah oui.
Le sujet de l'émission, parce qu'aujourd'hui, nous, on est un peu les gastronomes de l'extrême, là, quand même. Non? Hein, enfin, moi, je trouve.
Oh, par exemple... pas si extrémiste que ça, mais enfin, bon.
Enfin, mais t'as vu ces trucs, là?
Quand on n'aura pas mangé du petit blanc à l'eau de feu, on n'aura rien goûté.
Quand t'as la fourmi qui reste, là.
Faudrait décrire sa tête, quand même.
Hein? C'est une fourmi qui m'est restée en travers de la gorge.
C'est pour ça qu'on amène toujours à boire avec des insectes.
Bois un coup.
Il faut boire, c'est impératif.
C'est bizarre.
Hein? Ah, le verre blanc, tu vois, là, faut pas trop savoir ce que c'est, mais bon. Verre de farine. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le kéfir,
là. Il y a une escume.
Ah merde, j'en ai.
Je vois, c'est pas
ça.
Il gagne gourmand, il prend
tout. Je peux dire que j'ai passé un cap.
Oui.
À la base, c'est ma phobie. Et j'ai réussi à en goûter un quand même.
Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage par le plus grand amour qui me fut donné sur terre. Je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage par un soir de novembre à cheval sur les toits. Un vrai tonnerre de Brest avec des cris tutoie. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. La belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, entra dans ses foyers faire sécher son mari en donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire.
mer, des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tant bon battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Les textes de Brassens mis en jazz. D'ailleurs, Brassens était un amateur de jazz. Il avait fait, dans les années 80, 2-33 tours avec des musiciens de jazz américains, des musiciens de Duke Ellington. Il a toujours été passionné par cette musique. Et ses morceaux avaient une structure qui permettait de l'adapter au jazz. Et là, ce disque le prouve amplement. On aura l'occasion tout à l'heure d'écouter un deuxième morceau.
Qui c'est qui chante, là?
Alors, c'est l'orchestre Contreblanc. Qui est un orchestre Nouvelle-Orléans de Toulouse, qui sera à Montpezat de Quercy samedi prochain, le 7 novembre.
Les gastronomes de l'extrême, c'est un peu nous aujourd'hui, l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste, puisque à l'invitation de Jérôme Alamijon de la pâtisserie Alexandre, d'Emmanuel Kienast des 400 goûts et de Lynn Thébault, la chocolatière de la pâtisserie Alexandre, nous dégustons quelques mets agrémentés d'insectes séchés, voilà, heureusement, enfin pas séchés, grillés
et avec des houes.
Et on disait que c'était le bonjour pour interviewer Bruno Fulini, qui est l'auteur des Gastronomes de l'extrême. Alors là, il s'agit pas forcément d'insectes, mais carrément d'hippopotames, enfin des gibiers absolument extraordinaires, Pascal.
Donc Bruno Fulini, c'est un gars assez sympa, haut fonctionnaire, maître de conférence à Sciences Po. Il est l'auteur d'une grosse vingtaine d'ouvrages et il s'est fait une spécialité de la compilation de par exemple Voter fou, candidat bizarre, utopiste, chimérique, mystique, farfelu et farceur. Les élus auxquels vous avez échappé dans les secrets de la police, plein de choses comme ça qui sont des ouvrages où il compile plein de choses tout à fait bizarre. Et là, il s'est intéressé aux ces fameux gastronomes de l'extrême. Donc, dans la littérature de tout poil, toutes les recettes ou tout ce qu'ont mangé les gens ou tout ce que les Européens qui sont partis à l'aventure ont pu découvrir et soit manger, soit abobiner, parce que quand même, une friture de ver blanc, ça ne se fait pas, ça ne se mange pas comme ça innocemment. Mais pourtant, en 1903, Wilfried de Fonvielle, en réponse à Hector France, dit « Je ne sais pas si la société d'insectologie existe encore, mais si elle banquette de nos jours, je serais enchanté de m'y rendre pour remanger des vers blancs en les arrosant de Bordeaux blanc. » Bruno Fulini, bonjour. Est-ce que vous avez déjà goûté ça, les vers blancs avec du Bordeaux blanc?
Bonjour, non, ça ne figure pas sur ma table. C'est pas un livre qui a des visées pratiques, c'est plus un livre à la fois pour frémir et pour rêver, pour partir en voyage avec tous ceux qui, dans leurs récits, eh bien, ont raconté des repas absolument incroyables, parfois en France, mais très souvent aux quatre coins du monde, en fait.
Ah oui, parce que là, c'est Hector France, il a écrit « Les horreurs de l'alimentation ». C'est quand même... Il fallait le trouver, le bouquin, quand même.
Alors, en fait, il aurait voulu faire un livre sur ce thème-là, et a priori, le sujet était tellement effrayant qu'il n'a pas trouvé l'éditeur, et donc il s'est rabattu sur un journal qui existait, là on est dans les années 1900, on est en 1903, il s'est rabattu sur un journal qui s'appelait le Journal des Voyages, et qui était acheté par les petits Français, un peu les grands ados qui rêvaient des colonies, qui rêvaient de pays exotiques, et il y avait cette rubrique, les horreurs de l'alimentation. Alors, le titre a l'air très négatif, mais Hector France était assez ouvert là-dessus et considérait que finalement nos escargots ou nos grenouilles pouvaient paraître tout aussi atroces à un habitant de l'Afrique ou de l'Australie que leurs sauterelles, leurs larves grillées ou toutes sortes d'animaux plus importants, plus gros, qu'on peut être amené à manger lorsqu'on voyage très loin.
Alors, dans vos remerciements, vous notez quand même, mes remerciements vont à ma famille pour avoir courageusement enduré le récit de mes explorations culinaires durant la confection de ce livre. Est-ce que vous les avez fait partager des choses un petit peu bizarres, comme ce qu'on est en train de déguster là, c'est-à-dire des insectes secs ou grillés ou aromatisés?
Bah, nous n'avons pas pris en famille de la soupe de queue de kangourou ni du rôti de baleineau. En revanche, nous avons goûté une recette d'Amérique du Nord qui est la tarte au vinaigre. Et en fait, c'est délicieux. Alors, dit comme ça, tarte au vinaigre, ça fait un peu frémir. Mais en fait, c'est très comparable à la tarte au citron. Si vous n'avez pas de citron, vous remplacez par un bon vinaigre et c'est tout aussi bon.
Et ça marche.
Oui, 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 oui. De même, il y a une recette juive d'Afrique du Nord pour faire cuire des œufs. Évidemment, au départ, c'était en Afrique du Nord, c'est de faire cuire des œufs dans du sable.
Au sable brûlant.
Très, très curieux, voilà. En fait, vous mettez des œufs dans un plat, puis du sable, puis de nouveau des œufs, puis du sable. Et puis, lorsque la jarre est entièrement remplie, vous mettez ça à chauffer au four. Et donc, le sable étant un excellent thermoconducteur, ça fait des œufs qui effectivement sont cuits tout aussi bien que dans de l'eau, mais autrement, et puis avec un petit goût, c'est pas mauvais.
Alors vous savez, si on est perdu en plein Sahara, il faut toujours avoir de l'eau en poudre selon la recette de Pierre Dac, c'est-à-dire avoir un sachet d'eau en poudre, et pour faire un litre d'eau, eh ben, on rajoute au sachet d'eau en poudre un litre d'eau, et on a un litre d'eau reconstitué. Donc, pour aller voyager en plein désert, c'est très très pratique, et pour faire cuire les œufs, effectivement, si on n'en a pas, il faut aller vers le sable.
Voilà, faut surtout avoir des œufs. Si vous n'avez pas d'œufs en plein désert, vous trouverez dans le livre quelques recettes de chameaux aussi. On peut faire des pieds de chameau en vinaigrette, par exemple, ou du rôti de chamelon béarnaise.
Bon, il paraît des pieds d'éléphant ou pieds de chameau à la Sainte-Menou. Je le rappelle, la Sainte-Menou, c'est pané. Pané à l'huile ou au beurre, donc il faut avoir quand même de la panure. Mais là, on trouve beaucoup de choses aussi de la bonne cuisine aux colonies, par exemple. C'est un ouvrage de l'art culinaire qui est publié à Paris en 1931. Comment vous avez compulsé tous ces récits, toutes ces recettes, tous ces...
D'abord, il a fallu les trouver, en fait, à un moment, je suis un gros lecteur de récits de voyage.
J'ai vu ça dans votre bibliographie, oui.
Et donc, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que quand vous lisez les récits d'un voyageur, d'un explorateur, d'un navigateur, l'alimentation est très présente. C'est pas du tout le cas quand vous lisez les mémoires d'un homme politique, par exemple, ou d'un diplomate, non. Mais pour un voyageur, et on le comprend quand on voyage soi-même, le repas qu'on va faire, c'est très important. Et comme on est dans un territoire qu'on connaît mal, avec éventuellement une alimentation qu'on connaît mal, il faut s'y prendre à l'avance pour ne pas manquer le repas, en fait. Et donc, à un moment, j'ai commencé à rassembler comme cela ce genre de récits, et puis j'ai fini par m'apercevoir qu'il existait quelques livres de recettes, mais ils sont assez rares, hein, qui avaient été faits par des coloniaux ou d'anciens coloniaux. Alors des fois avec l'idée de rassurer un petit peu les métropolitains en disant mais si vous partez aux colonies vous pourrez manger comme en métropole. Et par exemple il y a un livre assez zinzin qui a été édité en Belgique qui s'appelle Les Gourmets au Congo et qui voulait absolument prouver aux Belges que s'ils allaient au Congo belge, eh bien ils pourraient manger des frites et de la carbonade, sauf que les frites sont faites d'igname ou de patates douces et que la carbonade c'est du singe.
Ouais, le singe en gibelotte.
Par exemple, voilà, vous avez beaucoup de recettes de singes, beaucoup de recettes de toutes sortes d'animaux. Et puis vous avez aussi de grands écrivains qui étaient aussi des gastronomes. Et c'est vrai que j'ai trouvé quelques recettes extraordinaires dans le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas. Parce que Dumas est à la fois un grand écrivain, un grand voyageur et un grand estomac. Il est d'ailleurs mort, hein, de son grand dictionnaire de cuisine qu'il a écrit à la fin de sa vie et dont il goûtait tous les plats. Et non seulement dans ce dictionnaire, il a bien sûr mis les plats emblématiques de la gastronomie française, mais il a évoqué aussi des plats absolument incroyables, certains qu'il avait goûtés et perfectionnés, la soupe à la tortue dans laquelle il ajoute des quenelles par exemple, d'autres dont il a entendu parler, alors il a demandé à des grands chefs de son temps de rédiger des recettes, par exemple il savait qu'on mangeait des pieds d'éléphant au Siam et au Cambodge, que c'était même un mets royal, et donc il a demandé au grand chef du Gléré d'imaginer comment on pouvait cuisiner ça, et donc on a une très longue recette pour attendrir et assaisonner les pieds d'éléphant.
Non, ça prend 15 jours. Merci Bruno Fulini pour nous avoir donné ce gastronome de l'extrême sur lequel je me suis précipité lorsque je l'ai vu en devanture de librairie. 17 €, les éditions du Trésor, à lire, à conseiller, très excellent cadeau de Noël ou d'Halloween ou de Noël. Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Nous, on reprend effectivement nos dégustations d'insectes. Merci Bruno Fulini. La suite de Qu'est-ce qu'on déguste? Grillons, verre de farine et autres lombriques juste après ça.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Aigrillon, sauterelle, verre de farine, fourmi, voilà
géant.
Ce qu'on déguste aujourd'hui dans les studios de CFM Radio. Alors je vous rassure quand même, hein, pour faire passer tout ça, on a quand même débouché de bonnes bouteilles.
Un brocol 2012 en gaillac du domaine de Théris, des Théris qui était fort bon.
Voilà.
Et puis, et là, on ouvre un monsieur de Péricard, vin de pays de Thézac-Péricard. C'est dans le 47, c'est mis en bouteille à la propriété par les vignerons de Thézac-Péricard. Voilà. Bon,
écoutez,
tu es Malbec. Alors, on fait les fonds de cave parce que on passe un appel au peuple. Nous n'avons plus rien à boire. Chers auditeurs, si vous voulez que cette émission continue dans de bonnes conditions, venez nous apporter des bouteilles. Nous n'avons plus rien. La cave de Qu'est-ce qu'on déguste est vide, archivide, ultra vide.
Ne nous apportez pas des insectes. Ça, c'est déjà fait. Grâce à Emmanuel Kienast, de la boutique Les 400 Goûts, au cœur de Montauban, rue du Grève. Vous savez, c'est cette rue dont on vous parle souvent parce que il y a un super fromager, il y a un super boucher, il y a un super caviste, il y a même un petit bistrot qui fait des huîtres maintenant, et puis il y a la boutique des 400 Goûts, il y a même un gars qui fait des pâtes, enfin c'est un endroit qui est plutôt sympa, qui bouge et vit beaucoup le samedi matin, mais pas que, et là donc Emmanuel Kienast et son mari, non peut-être, hein.
Mon conjoint, Marie, Paxi.
Voilà, on rejoint cette
équipe. On va finir par le bouffer. On va le découper, le mettre en vente.
Il n'est pas comestible.
Jérôme Alamijan, je sais qu'il aurait bien aimé pouvoir ouvrir une boutique dans cette rue du Grève s'il avait trouvé à l'époque chaussures à son pied, c'est-à-dire suffisamment d'espace. Il a trouvé son bonheur sur le Faubourg-la-Capelle. Ouais. Ça va, ça se passe bien, cette boutique. Ça fait un an maintenant, là, non?
Ah non, ça va faire 3 ans.
Trois ans, c'est Oh là, le temps passe.
McFly, ça fait 3 ans.
Retour à le futur.
Et depuis combien de temps, Lynn Thébault, travaillez-vous pour Jérôme Alamijan?
Maintenant, ça fait un peu plus d'un an.
Un peu plus d'un an. Vous êtes chocolatière.
Exactement.
Je croyais chocolatière, c'était le récipient dans lequel on faisait
aussi,
le chocolat.
Aussi, oui. Aussi.
Ah, toi aussi.
Voilà.
Oui, d'accord. C'est marrant, ça.
Quelqu'un qui fait le chocolat est un chocolatier ou une chocolatière.
Voilà, vous avez toujours voulu être chocolatière? Comment on vient à la chocolaterie, au chocolat?
Alors, j'ai commencé par la boulangerie-pâtisserie. Et ne trouvant pas d'entreprise pour faire un BTM, un niveau bac en pâtisserie, on m'a conseillé de faire un an en chocolat. Et c'est comme ça que j'ai découvert auprès de mon chef de l'époque la passion du chocolat. Et après, je ne l'ai plus quitté.
Et après, vous ne l'avez plus quitté. Et vous voici chocolatière. Vous mettez souvent des insectes dans vos chocolats?
Non, c'est la première fois.
Ouais.
C'est la première fois.
Et alors?
Et alors, c'est pas mal comme expérience. Oui, ça sort un peu du commun, quoi.
Vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez été obligé de surmonter votre phobie quand même. Hein.
Oui, on a réussi à me faire manger un verre, donc ma phobie principale. Sans réfléchir, j'en ai goûté un, donc j'ai passé un cap.
Bon, est-ce que vous en avez goûté deux?
Non, un seul.
Ah, quand même, voilà. Aventurière, mais pas téméraire.
J'y vais petit à petit quand même.
Ce serait intéressant, Emmanuel, que vous nous racontiez... Comment ça se fait que vous êtes venu ouvrir les 400 goûts à Rue du Greffe, à Montauban, avec
Quelle
votre
idée.
Mari?
Ouais. Quelle idée. En fait, on voulait monter une épicerie fine. Et une épicerie fine, dès le début, on savait qu'on voulait qu'elle soit un petit peu décalée. C'est pour ça qu'on l'a appelée une épicerie fine étonnante. Parce qu'elle est d'un côté traditionnelle et d'un autre côté insolite. Donc il y a les gammes traditionnelles d'une épicerie fine classique, il y a énormément de produits locaux. Puis après il y a des produits de régions de France et du monde qui correspondent à des endroits où on a voyagé et surtout des endroits où on a vécu, qu'on connaît bien. Rayon Bretagne parce que mon mari est breton. Un grand rayon Outre-mer parce qu'on a vécu en Guyane. J'ai vécu 15 ans à La Réunion avant. Un rayon Canada parce qu'on adore le Canada. Et au-delà de ces rayons de tradition des produits locaux de France et du monde, on voulait absolument avoir quelques gammes de produits insolites, novateurs, qu'on connaissait, qu'on appréciait grâce à nos différents voyages. On voulait les faire partager. On s'est dit, si ça marche, tant mieux.
Qu'on appréciait.
Ah oui?
Vous mangiez dans vos différents voyages des verres?
Ouais,
des...
Oui, oui. Au début, j'étais réfractaire. Franchement, en voyant ça, j'étais comme tout le monde. Pour moi, un insecte, c'était... nuisible, nuisible.
C'est ouais, puis surtout les larves, quoi. À la limite, un insecte, bon, ça fait.
Ça, c'est oui, oui. C'est les vers de farine sont les larves du ténébrion, qui est un petit coléoptère. C'est vrai que j'étais pas très partante au début. C'est mon compagnon qui m'a poussé à les goûter et maintenant je suis une adepte et j'en mange régulièrement, c'est vrai. Mais spontanément, non, franchement. Mais c'est culturel, c'est vrai qu'en France, on n'a pas du tout l'habitude alors qu'il y a 2 milliards d'humains qu'on mange très régulièrement.
Et pourtant, on mange des escargots.
Bien sûr, on fait bien pire, on mange des huîtres qui, elles, sont vivantes.
Oui, 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 bien sûr.
C'est culturel,
et ça semble. Et par douzaine. Et on trouve ça bon.
On adore.
Ce que je trouve, moi, superbe dans le monde dans lequel on vit, c'est que ça y est, il y a des produits français, donc des produits français oui. D'insectes aujourd'hui, puisque les boîtes que vous nous avez emmenées là, c'est donc les insectes sont sous vide. Et alors, c'est peut-être pas sur celle-là.
Non, non, parce que ça, c'est un Français, mais qui a son élevage en Thaïlande.
Absolument.
Et par contre, on a
les insectes apéritifs oui. micronutrices. Je pense qu'on en avait
oui,
déjà
oui.
parlé.
On en avait déjà parlé. Je crois qu'on l'a appelé.
On l'a appelé dans cette émission micronutrice. Il est
Toulouse. Il y a Palma ou
Saint-Orens.
Exactement.
Et alors voilà, donc il y a des gens qui aujourd'hui commencent à commercialiser des insectes pour l'apéritif. Voilà. Goût grillade. Alors, combien ça coûte d'ailleurs? Est-ce que c'est un truc de bobo qui coûte super cher,
oui.
ça?
Ouais. Pour le moment, oui. Oui. Ouais, ouais. Alors, un petit sachet comme ça, ce petit sachet, il vaut dans les 8 euros. Et vous avez à peu près 250 insectes à l'intérieur. En revanche, les boîtes où l'élevage est fait en Thaïlande sont des boîtes de 25 grammes et proportionnellement sont beaucoup moins chères parce que l'élevage vient de Thaïlande. Ça coûte dans les 10-11 euros.
Ouais.
Alors qu'il y en a
oui,
plus.
Enfin, là, il y a un bilan carbone un peu plus lourd que dans ceux qui viennent de Saint-Orens.
Oui, bien et dit. Puis ce qui m'inquiéterait quand même dans l'élevage intensif d'insectes, c'est quand même les produits que tu peux balancer dessus et la législation qui est peut-être pas la même quand t'es en Thaïlande que quand t'es en France.
Voilà.
Quoi.
C'est pour ça que ça c'est un Français qui a son propre élevage en Thaïlande. Sinon, on pourrait pas les vendre en boutique. Pour l'instant, il y a pas mal de flou juridique, mais on ne peut vendre que des insectes qui sont français, même s'ils sont d'origine d'autres pays.
Et donc il y a une traçabilité. On sait qu'il a pas balancé des saloperies
absolument.
Dessus.
Il y a une traçabilité. Ça passe dès qu'il les ramène en France, ça passe en labo pendant des semaines et des semaines. D'ailleurs, on est en attente de criquets, on est en rupture de stock de criquets parce qu'ils sont actuellement en labo. C'est très strict.
Non, mais je pense que quand même, le gars, il fait pas n'importe quoi. Il veut pas tuer ses clients quand même. Déjà, le client est peut-être rare, il veut peut-être pas les tuer au premier coup. Quoi.
Pas tout de suite.
Ah, tu sais que si je trouve un cornflakes au milieu de mes verres, je paye pas.
Je me plains.
Vous savez, je passe... Ah.
Oui, monsieur, tu voulais dire.
Non, je disais, on a tous dans la tête des images, par exemple, des Indiens en Guyane qui trouvent une belle migale, qui lui retournent les pattes au-dessus de la tête, qui l'attachent avec une liane et qui la font griller, et les gars se régalent. Mmh. Ou alors ces gros vers de, ces grosses larves comme ça, qui sont grosses comme le pouce. Quand j'habitais à la campagne, moi, j'avais des gros morceaux de bois dans lesquels il y avait des larves de capricorne. C'est des gros vers blancs comme ça qui sont plus gros que le pouce. Quand il y en avait un qui tombait par terre quand on fendait du bois, moi, j'avais un chat, il se régalait, il sautait dessus, il mangeait ça, c'est plein de jus, c'est plein de jus blanc, machin. Bon.
Et donc, vous avez un rayon avec tout ça, quoi.
Oui. Absolument.
Il y a des pays comme le Mexique où ils mangent, par exemple, 504 variétés d'insectes différents. Et moi, je me souviens avoir vu des gamines manger des insectes vivants qu'elles avaient sur la peau. Des sortes de petits, pas des cafards, mais des petites bestioles.
Et qui mangeaient
vivants.
Ouais. Ouais, les punaises. Ils mangent beaucoup de punaises.
C'est les punaises, voilà. Ouais.
Et punaises d'eau.
Vous aviez parlé des punaises d'eau qui font à peu près la taille de la main. C'est
assez
impressionnant.
Énormes. Les géantes, on les a pas.
Bon, ouais. Comme on disait, on mange bien des huîtres vivantes.
Vous allez étoffer votre gamme?
Oui, ouais, ouais. On va continuer à étoffer notre gamme. De toute façon, ce que vous voyez là, ce n'est pas tout ce qu'on a déjà en boutique. Comme je disais, là, il nous manque toute une gamme de criquets. On en a des juvéniles et des adultes. Les adultes, c'est assez balèze, hein, quand même. Il y a des fourmis de Colombie que j'ai pas apportées.
Elles sont blanches?
Les fourmis de Colombie.
Parce que la paille est fournie avec.
Chacun fait quand comme il veut.
La fourmi qui fait rire. Est-ce que vous avez de la fourmi qui fait rire, s'il vous plaît, madame, la dépicière?
Des auditeurs s'étonnent sur notre page Facebook que Pascal ait été jeune.
C'est arrivé.
Est-ce que vous voulez savoir pourquoi manger des insectes?
Oui, nous voulons savoir.
Au-delà du côté un peu rigolo. D'abord, c'est un aliment riche en protéines, hein, les protéines qui sont à la base du fonctionnement du corps. Et d'après des études scientifiques, le taux de protéines des insectes comestibles est supérieur à celui des végétaux ainsi qu'à celui des viandes. Il peut atteindre 75% sur extrait sec, ce qui est énorme. C'est une solution aussi pour nourrir 9 milliards d'individus d'ici 2050. Là, c'est une question politique. Si manger des insectes se pose aujourd'hui en tant que question, il se pourrait que cette question devienne une évidence et même une nécessité dans les décennies à venir, car nous serons 9 milliards sur Terre en 2050. Et pour satisfaire les besoins, la production mondiale de viande va devoir doubler. Mais les surfaces agricoles ne seront pas suffisantes pour assurer une telle production. Donc la production et la consommation d'insectes se révèlent être une solution 100% naturelle pour répondre à ce défi. C'est un élevage avec un faible impact environnemental. La production de gaz à effet de serre, dont on parle souvent, donc est considérée comme une cause prédominante du changement climatique. Et bien, grâce à l'élevage d'insectes comestibles comme les criquets, les grillons et les vers de farine, on produit beaucoup moins de gaz polluants. Pascal.
Le criquet est peu péteur.
Voilà. Par rapport à la vache.
Ah oui, sûr,
c'est
recommandé. Ah,
oui. Ça, on sait que c'est ton sujet de prédilection.
Eh oui.
Un taux de conversion inégalé. 10 kilos de nourriture donnent 1 kilo de bœuf, 3 kilos de porc et 5 kilos de volaille, mais 9 kilos d'insectes. Les animaux donc ne transforment pas toute la nourriture qu'ils ingèrent pour grossir et se développer, mais les insectes, eux, si. Donc avec 10 kilos de nourriture, vous avez beaucoup plus de rendement avec les insectes. On participe aussi au maintien de la biodiversité et c'est une alternative donc aux productions animales intensive et c'est une pratique aussi ancestrale. La consommation d'insectes comestibles n'est pas une pratique nouvelle en Europe. On trouve des traces de cette pratique depuis l'Antiquité. Donc, soyons brefs, mangeons des insectes. De toute façon, on va être peut-être obligé de le faire d'ici quelques années.
Et on a Zinzine Montauban qui nous dit sur Facebook qu'elle l'a fait.
Justine.
Et je sais pas qui c'est.
C'est Justine.
C'est Justine. Alors Justine, elle en a mangé. Elle a dit que ça restait très basique. Criquets, grillons et vers de farine au curry. Mais elle voit que nous accordons des douceurs beaucoup plus funky au chocolat.
Voilà.
Donc on peut lui dire qu'elle peut y aller les yeux fermés demain à la boutique Alexandre parce que quand même ce...
Le mélange chocolat. Non,
le mélange est bon. Bien
sûr.
Ça a du craquant.
Ça sera un délicieux mélange.
Oui, oui, oui. Et puis, il y aura une dégustation demain après-midi en plus.
Et puis, c'est très joli, je trouve. Vraiment.
Avec les fourmis, c'est magnifique.
Moi, j'ai pas goûté les fourmis. Donne-moi un truc avec les fourmis, s'il te plaît.
Ça craque vraiment, la fourmi.
Ah oui, il faut avoir le ballon dans cette émission, sinon tu...
C'est une craque sous la dent.
C'est très beau.
Non, avec les fourmis, c'est très joli, on dirait. C'est ça, des petits reflets. C'est magnifique. Vas-y.
Mais
vas-y sans crainte.
Ça ressort bien sur le chocolat au lait.
Come on, darling.
C'est des fourmis que vous avez ramassées pour Football à Capelle.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on a été poursuivis pendant des années parce qu'on avait des insectes qui traînaient dans les laboratoires et aujourd'hui on va les chercher.
Tu les rajoutes dans les bonbons de chocolat. Regarde comme c'est beau.
C'est le début de la
reconversion. On en ferait presque des bijoux, quoi. Des boutons pour des manteaux cet hiver.
Ça craque.
Très quand même.
Alors pour la petite anecdote, l'idée vient de mon beau-papa qui me tannait depuis plusieurs mois, qui trouvait l'idée très sympa d'associer ces insectes qui commencent à faire parler tout le monde au chocolat. Et il me disait tous les mois, quand est-ce que tu fais des chocolats aux insectes? Quand est-ce que tu fais des chocolats aux insectes? Et je voyais pas trop quel moment sortir le produit. Et Halloween s'est présenté comme un...
C'est une super idée.
Comme un beau jeu.
Alors, mais moi, je pensais que vous alliez les enrober pour les cacher un peu. Tiens, il y a le craquant qui est dedans, tu le vois pas, tu manges ton truc au chocolat et puis tu sais pas que dedans t'as un grillon, tu vois, ou un verre, un lombric, un truc comme ça. Mais non, tu les exposes sur le.
Ah ouais, c'est plus rigolo sur en fait. On se teste beaucoup plus. C'est un rapport. L'image est plus impressionnante. Ce serait enrobé à l'intérieur.
En fait, ça fait comme un chocolat avec un cerneau de noix dessus.
C'est ça, sauf que c'est pas un cerneau de noix. C'est juste le verre.
Pourquoi chocolat au lait et pas un chocolat noir, une ganache beaucoup plus puissante?
Parce que sinon, on ne les verrait pas.
Voilà, déjà, pour la fourmi qui est noire, on l'aurait difficilement aperçu. Et aussi parce que le chocolat au lait est un peu passe-partout, un petit goût sucré qui peut adoucir le goût des insectes.
Puis un côté plus gras avec la protéine de lait, c'est plus facile, ça se marie plus facilement.
Mais vous avez essayé après avec sur des pralinés ou des choses comme ça?
Oui, après de toute manière on pourrait développer. En fait, c'est un test qu'on fait tout simplement. Si jamais demain on voit un monde anormal devant le magasin pour faire une dégustation, on va peut-être se poser des questions.
Qu'est-ce qu'on écoute comme musique, mon cher Christophe?
De l'afrobeat, mon cher Rémi, avec maître de l'afrobeat, le batteur Tony Allen, qui a accompagné Fela pendant toute sa carrière. Et là, on le retrouve avec Yinka Davis sur le morceau Kilo D, Tony Allen. Afrobeat de Tony Allen et Yinka Davis, le morceau Kilo D, extrait d'une compilation que j'ai reçue cette semaine, que je vous recommande, Afrobeat Revolution.
Si vous prenez le train en marche, sachez que dans ce qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui, on a commencé par déguster des insectes. L'invitation d'Emmanuel Kienast de la boutique Les 400 Goûts, c'est situé rue du Greffe à Montauban, près de la place nationale, dans le cœur hein, de Montauban. Si vous passez par là, forcément, c'est une rue qu'il vous faut visiter. Vous allez dire bonjour de notre part à peu près à tous ceux qui sont dans la rue. On les aime tous beaucoup parce qu'ils font tous du très bon boulot. C'est la rue gourmande de Montauban.
Magasin de vêtements, oui.
Hein?
Tous les magasins de bouche, pas de vêtements ou de chaussures, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. On va pas non plus aller dire merci à Katimini.
Par exemple.
Ouais, bon, c'est un joke, il faut toujours dire Katimini dans une des émissions, je ne sais pas pourquoi. Voilà.
C'est comme ça qu'on aura à boire.
Jérôme, dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'on est en train de goûter là.
Bon, ben là, on est passé à des choses plus classiques. Là, on est en train de déguster la tarte occitane aux pommes de Montauban. Il y a aussi un cake citron de l'autre côté. Et il y a aussi le fondant au chocolat, la tarte occitane au chocolat qu'on dégustera à la fin. Parce qu'au niveau du goût, c'est un peu plus fort.
Là, on n'entend plus personne. Hein.
Ah non, là, on s'est réglé. Hein.
Ah, c'est pas mal.
Ça. Effectivement, je trouve un goût d'amande aussi dans la tarte aux pommes.
Ça tombe bien, il n'y en a pas.
Il y a un goût d'amande comme. Ouais, un petit pitivier ou un truc comme ça. Là.
C'est le mélange de beurre et de sucre cuit comme ça ensemble. C'est ça qui donne cette impression. Ça rappelle un peu la frangipane, tout ça.
Ouais.
C'est ça. Ou alors t'as cuit une frangipane juste avant et hop.
Non, pas encore. Bientôt.
C'est vrai que ça fait longtemps qu'on dit qu'il faudrait qu'on fasse un qu'est-ce qu'on déguste directement dans le laboratoire. Alexandre, je serais assez curieux de voir finalement comment sont fabriqués ces gâteaux que tu nous présentes là, s'il y a une chaîne, raconte-nous comment c'est.
C'est très artisanal déjà, puisque on est vraiment, c'est une toute petite entreprise, hein, et en fait on fabrique les choses un petit peu comme à la maison, mais en version un peu plus solide, on va dire. C'est-à-dire qu'on a des plans de travail, on a des machines, des batteurs mélangeurs, mais ça va pas plus loin que ça. C'est vraiment, c'est un métier manuel.
Mais quand tu fais un gâteau comme cette occitane, cette croix occitane qui est devant moi,
oui.
T'en fais par paquet de 20, de 30, par de 100,
60,
de 200
par 60 à l'heure actuelle.
60.
Ouais, par 60.
C'est ça, tu sais que il faut vendre ces 60 gâteaux.
Alors après, non. Alors nous aujourd'hui on travaille.
Oh non, il va pas.
Non, mais aujourd'hui on a la possibilité de travailler grâce au froid. On a la possibilité de stocker grâce au froid. Et donc en fait aujourd'hui on fabrique et puis on bloque en surgélation à moins 25 degrés. Et on a l'opportunité de les sortir au quotidien et de les cuire en direct. Voilà, tout simplement.
Ah d'accord. Avant cuisson, en fait, ils sont surgelés.
Toujours, parce qu'en fait, sinon, vous retrouverez pas du
ben
tout.
Oui, il y a pas cette fraîcheur.
Vous retrouverez pas cette texture. Voilà, c'est ça.
Ah, ils sont les gâteaux sont congelés crus.
Oui, bien sûr.
Et on les sort.
Enfin, ce genre de gâteau. D'accord, ce genre de gâteau. Voilà. Après, vous avez aussi les gâteaux. Alors, on va parler un petit peu de choses qui font peur beaucoup aux artisans. Après, la congélation chez les artisans, c'est quelque chose d'hyper important. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent le cacher parce que souvent, on fait l'amalgame entre la congélation et l'industrialisation. Mmh. Mais c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, les artisans sont obligé de congeler.
Pourquoi tu me donnes un petit
coup comme
ça ?
Parce qu'en fait, c'est la seule possibilité pour fabriquer tout ce qu'on fabrique aujourd'hui, avec toute la différenciation et comment mettre un intérieur liquide dans un intérieur solide, si ce n'est qu'en utilisant la congélation. Quoi.
D'accord. Et au niveau, donc, il faut
au niveau gustatif, ça change rien. Toi.
Absolument. Et au contraire, c'est même un gage de qualité. Le fait de pouvoir congeler, c'est justement le fait de bloquer instantanément des produits sans les laisser traîner à gauche ou à droite. Quoi. C'est vraiment un idéal.
Mais c'est pas des surgélateurs, des congélateurs ménagers. C'est des cellules de froid.
D'abord, c'est des cellules de surgélation très puissantes. Mmh. Et deuxièmement, c'est vraiment des produits qui sont fabriqués entièrement dans l'entreprise. Mmh. C'est là où il faut vraiment être clair avec les gens. Il faut pas que les gens pensent que on achète du congelé pour le revendre. Non, c'est pas du tout ça. On fabrique et... Je dis ça parce que j'ai eu l'anecdote un jour avec une cliente.
C'est pas du Picard qu'on trouve chez Alexandre.
Voilà, c'est bon, je veux pas citer de nom parce que je suis pas habitué, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce qui est fabriqué dans l'entreprise, tout ce qui est vendu dans l'entreprise est fabriqué dans l'entreprise. Voilà.
La clientèle aujourd'hui chez Alexandre, elle vient plutôt chercher le gâteau traditionnel parce que c'est rassurant de retrouver le goût du gâteau qu'on connaît depuis qu'on est petit. Ou bien ils viennent aussi chercher l'innovation, la surprise.
Aujourd'hui on arrive à s'en sortir un petit peu grâce à ça. C'est-à-dire qu'on est capable d'offrir un large choix de produits. On est capable d'offrir du très classique aujourd'hui, alors qu'à une époque on ne le faisait pas tout à fait. On était vraiment sur de la pâtisserie très moderne. Et aujourd'hui j'ai vraiment compris qu'il fallait aussi aller vers le classique, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un rayon qui fonctionne très très bien. Les gens ont besoin d'être rassurés. Tu as dit rassurés, oui. C'est exactement le mot, quoi. C'est le Paris-Brest, qui est un gâteau qui fonctionne énormément chez nous. C'est vraiment, ça rassure, les gens viennent pour retrouver
des goûts
d'enfance.
Mais c'est le goût de nostalgie, un peu, voilà, c'est ça.
La fameuse madeleine de Proust, ouais.
C'est
ça, c'est
exactement ça.
Mais on a tous envie de retrouver les crêpes de mamie ou la tarte aux pommes.
Absolument.
Et quand on trouve avec joie un pâtissier qui arrive à nous faire retrouver ce goût-là,
normalement,
on y revient.
Le bâton de Jacob. Ouais, le bâton de Jacob, le baba au rhum. Regardez les baba. Moi, j'ai des gros baba au rhum. Je fais partie des rares artisans que je connais dans mon entourage à fabriquer des gros babas, quoi. Des babas 8 personnes, 12 personnes. Et depuis qu'on les a remis en activité, ça fonctionne très bien, quoi.
Et comme les Paris-Brest d'ailleurs, ici.
Et comme les Paris-Brest, et comme les Saint-Honoré, comme les Millefeuilles, et voilà, le grand classique.
Le gros gâteau.
Fonctionne.
Le gros gâteau.
Le gâteau gourmand, voilà.
Est-ce qu'on peut boire un coup, hein?
Ben oui, là-bas. Il faut pas oublier, par exemple, une ville comme Montauban, il y a un certain nombre d'années, quand j'étais jeune, quand j'étais tout petit, il y avait 4 pâtisseries à Montauban qui étaient pleines, qui dégueulaient le dimanche matin.
Perriès, Marty, Masbou,
Laurent qui était en face, qui faisait des glaces, des gâteaux, des petits gâteaux, des machins, des bonbons, etc. C'était
on a mangé beaucoup.
Et c'était si tu ne réservais pas, il y avait à 11h30, il y avait plus rien.
Oui, il y en avait aussi place national, notre en bas de la rue de la Résistance.
Il y en avait un peu partout dans Montauban.
Il y avait deux pâtisseries.
Mais c'est pas compliqué. Le syndicat des pâtissiers, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que dans les années 70, le syndicat des pâtissiers dans la région, quand ils se réunissaient, ils étaient 120, 130 personnes. Aujourd'hui, le syndicat des pâtissiers, il n'existe plus, quoi. Dans le Tarn-et-Garonne, la branche départementale n'existe plus parce que, on était plus que 4 et à 4, on a dit on arrête parce que ça sert plus à grand chose, quoi.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste avec Jérôme Alamijon à la pâtisserie Alexandre Emmanuel Kienast des 400 goûts à Montauban et Lynn Thébault, chocolatière chez Alexandre, c'est dans quelques instants.
.563 930 020 CFM. Jouer et gagner.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Allez, c'est Qu'est-ce qu'on déguste y a un quiz, hein. On vous l'avait pas annoncé, donc j'espère que vous êtes proche de votre téléphone. Parce que ce quiz va vous permettre ce soir de remporter une pâtisserie de chez notre invité du jour. Alors, je vous dis pas qui c'est notre invité du jour parce que ça fait partie du quiz. Alors, c'est une pâtisserie qui s'appelle l'Occitane, hein, c'est ça, Jérôme?
La tarte occitane.
Ouais, la pâtisserie, oui, le gâteau.
Le gâteau s'appelle la tarte occitane.
La tarte occitane.
D'accord. Quelle est la différence entre un gâteau et une tarte? Ça pourrait être une question qu'on vous pose. Mais c'est pas celle-là, la question que je vous pose. La question que je vous pose, c'est la boutique d'Emmanuel Kienast, qui est située rue du Greffe à Montauban, et que nous invitons ce soir, qui nous invite ce soir à déguster des grillons.
Mais pas que.
Comment s'appelle-t-elle? Les 400 coups? Les 400 goûts ou les 400 choux? Vous nous appelez de suite au 05 63 930 020 et c'est peut-être pour vous la tarte occitane.
Et elle est bonne.
C'est quoi la différence entre une tarte et un gâteau? Non mais je sais pas.
T'en as pas d'autres des questions comme ça? Je fais pas le quiz moi.
Ben là c'est quand même assez... À supposer qu'une tarte c'est un fond de pâte avec des fruits dessus. Or là, les fruits sont à l'intérieur, sont noyés dans le... C'est plutôt un gâteau, c'est pas une tarte. Tu vois, c'est pas une tarte.
D'accord. Un gâteau, ce serait quelque chose de construit.
Il y a de la pâte, il y a de la farine, il y a du... Enfin, il y a une... Ça foisonne, voilà. Il y a une
notion d'épaisseur.
Ouais, il y a une notion d'épaisseur dans le...
Je vais essayer de me renseigner quand même. Je vais essayer de regarder. Honnêtement, je me suis jamais posé la question et c'est très intéressant. Quand on réfléchit bien, pourquoi gâteau, pourquoi tarte?
Un fond de pâte avec des fruits par-dessus.
Oui, quelque chose encore rempli, une tarte.
Voilà. D'accord.
Mais un gâteau est bien rempli aussi. Alors là, tu brouilles un peu les pistes parce que tu as quand même des fruits qui sont au milieu de la pâte.
Donc, en fait, c'est un gâteau tarte, ça.
C'est peut-être un gâteau tarte. C'est un petit peu comme une tatin avec la pâte dessus.
Et elle s'appelle donc la tarte occitane.
Et alors, on la trouve où? Chez quel pâtissier?
C'est une nouveauté, donc, cette tarte occitane.
Oui, surtout celle au chocolat que vous n'avez pas encore goûtée. Vous allez la goûter là maintenant. Oui. C'est surtout celle-là, le fondant au chocolat. C'est nouveau et c'est pas mal.
On la goûte. Voilà. Je rappelle, chers auditeurs, qu'au 05 63 930 020, vous pouvez gagner cette tarte occitane que nous sommes en train de déguster. En nous disant comment s'appelle la boutique de Madame Emmanuelle Kienast. Est-ce que c'est la boutique des 400 coups, des 400 goûts ou des 400 choux? 05 63 930 020. Pendant ce temps, je regarde la page Facebook et je vois, quand je pense qu'Emmanuel vous a ramené du jus de poire pour faire passer tout ça, j'ai cru comprendre qu'il y avait bien plus convivial.
Non, mais on est au jus de poire.
Ça y est, on le voit.
Moi, je vais basculer, je vais me mettre au jus de poire aussi, alors.
Mais nous, on l'a amélioré.
Que le jus.
Oui, pour le moment.
Ce qu'on appelle du jus arrangé.
Voilà. Alors ça, on le trouve dans la boutique.
Oui. Ouais, dans nos gammes de produits locaux, on trouve le jus du château du Clos, de la Bastide Saint-Pierre. Ouais. Les jus est pétillant de fruits.
D'accord. On est très pétillant de fruits et très jus.
Pur ou arrangé?
Non, moi, je vais le poire pur, là, comme ça.
De jazz. Or, si vous êtes amateur de jazz Nouvelle-Orléans et de Georges Brassens, il y a un concert qui se passera samedi prochain, le 7 novembre, à Montpezat-de-Quercy, à la salle du théâtre, où l'orchestre Contrebande fait un hommage à Georges Brassens en reprenant les morceaux de Brassens en jazz, en les chantant. C'est d'ailleurs Guy d'Argent qui joue de la trompette et qui le chante et qui les transforme en un esprit jazz et la musique de Brassens est tout à fait adaptable à ce style de musique. Là, nous l'écoutons dans le titre de Brassens, Les Passantes.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celle qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais.
J'interromps 2 secondes la belle chanson de Brassens pour vous inciter à appeler parce que pour le moment, la tarte occitane est toujours en jeu. 05 63 930 020.
Qui reste s'évanoui, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette, au nom de meurtre et pas nous. À la compagne de voyage, dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre, et qu'on laisse pourtant descendre, sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent en des heures grises, près d'un être trop différent, vous ont inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. aperçue, espérance d'un jour déçu. Vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin.
Vous avez reconnu les passantes de Georges Brassens qui étaient jazzifiées par l'orchestre contrebande qui se retrouvera à Montpezat de Quercy samedi prochain, organisé par Bleu Trompette.
Bonjour Maurice.
Bonjour, c'est Maurice à l'appareil, mais c'est Boris.
C'est Boris.
Boris.
Salut Maurice, comment ça va?
Martin, bien, toi aussi?
Ben ouais, ça vous arrive, pareil que chez toi, c'est soirée disco.
Ouais, c'est ça.
Ouais, bon, d'accord. Chez Boris, soirée disco, ouais. Ceux d'un certain âge peuvent comprendre.
Ça rejoint l'actualité, puisqu'au moment où c'était soirée disco, j'étais animateur chez Fram. Et tout le monde me chambrait avec ça à l'époque.
Non mais Rémi ne sait pas que Fram est en faillite. Et...
Liquidation judiciaire.
Oui, mais quel rapport avec le disco?
Eh bien, à l'époque, on me disait, on me sortait tout le temps cette vanne parce que c'était l'actualité.
Ah, d'accord, pardon, oui, d'accord.
Et voilà.
T'as eu raison de te barrer de cette boîte, moi je savais que ça allait pas durer.
Vachement anticipé depuis 96.
Okay. Boris, les 400 coups, les 400 goûts, les 400 choux, quel est le nom de la boutique d'Emmanuel Kienast?
C'est les 400 goûts.
Oui. C'est bien ça. Donc là, déjà, c'est un premier pas vers cette tarte occitane que tu pourras choisir. Hein, mais dans quelle boutique pourras-tu la choisir? Est-ce que ce sera chez Alexandre, chez Morane ou chez Alio?
C'est Alexandre.
T'es sûr?
T'es sûr de toi, hein? C'est ton dernier mot.
Oui.
Oui, ça va.
Jean-Pierre.
Pour la pression quand même. Hein.
Est-ce que tu as bien écouté cette émission, Boris? Parce qu'attention, la question suivante était...
Pas du tout. Je suis tombé sur CFM, en fait, au moment où tu posais la question.
Alors, on a dégusté des chocolats...
garnis aux insectes.
Oui.
Des chocolats garnis?
Aux insectes. Oui. Il y avait des insectes, monsieur. Tu vois, aujourd'hui, on a mangé des insectes.
Ouais. Ah bon?
Est-ce que c'était des chocolats noirs, des chocolats au lait ou des chocolats blancs?
Au lait, au lait.
Ah, c'est rien.
Alors...
La question est un peu au lait, au lait.
Ah, la question est un peu au lait, au lait. C'est vrai.
Ouais, chocolat au lait, alors. C'est ça.
Oui.
Bravo. Un grand gagnant. Ça fout
la pression, quand même. Hein.
Ah, t'as vu, hein. Allez,
alors, je vais peut-être faire passer ma pression à un de tes invités. Il y a Jérôme autour de la table d'Alexandre, non?
Oh, bah oui, il est là, oui.
Alexandre. Bon, mais je vais lui mettre la pression à son tour, je vais lui passer, puisque je l'ai déjà tanné plus ou moins pour l'inviter à animer un atelier cuisine pour Bleu Papillon. Et du coup, s'il a le temps de passer sur CFM, il a peut-être pas le temps d'animer les ateliers.
Oh. Non, j'ai pas le temps.
Et merde.
Ah oui, Bleu Papillon, c'est quoi au passage?
Ben, Bleu Papillon, tu sais, c'était... Enfin, oui, non, tu sais pas. C'est une activité d'indépendant que j'ai, en plus de mon activité à temps plein.
C'est Fram, tu veux dire? Bah, il vaut mieux que tu changes d'activité.
Et qui consiste à organiser des ateliers cuisine et de proposer des ingrédients et ustensiles aussi.
D'accord.
Et donc, je cherche des chefs, des intervenants intéressants et disponibles.
Ok, c'est-à-dire, c'est un peu comme les soirées du perroir, mais avec d'autres matos, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a Pierre Cantegrel qui serait peut-être motivé de faire un atelier d'ici la fin de l'année, là.
Eh ben, Pierre Cantegrel qui nous dit « Excellente émission sur les grillons, j'y ai goûté lors d'un apéro simonesque. » Et c'est Chante Grillon qui vous le dit. Ah oui, le Chante Grillon, c'est pas la même, hein, quand même. Hein. Chante Grillon, c'est un petit vin rouge qui va bien. Merci, Boris, à bientôt.
Merci aussi.
Ciao.
Bravo.
Bon. Alors, c'est effectivement chez Alexandre qu'il y aura cette tarte que Boris pourra aller chercher demain, et qu'il y aura également des ateliers pour les enfants, dans le... parce que c'est Halloween en fait, c'est ça ?
Ouais, voilà. Alors demain, c'est Faubourg La Capelle, là où il y a le salon de thé. En fait, on va animer des ateliers Halloween où les enfants vont pouvoir fabriquer des sucettes. En forme de fantôme, en forme de citrouille, en forme d'œil.
En chocolat?
Non, tout pas, à fait. Pas qu'un chocolat en praliné. En fait, c'est des petits montages, mais c'est vraiment intéressant. Je crois que sur la page Facebook de la pâtisserie Alexandre, il y a déjà des photos.
L'intérieur est un pop cake, un cake reconstitué au praliné.
Moi, j'ai vu passer effectivement sur Facebook
oui,
des sucettes en forme d'œil.
Pour les enfants, oui.
Ah, c'est que pour les enfants, on peut pas.
C'est impressionnant.
Ouais, pour les adultes, c'est le défi aux insectes.
Voilà, et les adultes qui accompagneront les enfants pour Halloween, on va leur faire le test des insectes, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu s'ils sont capables de déguster ces fameux chocolats.
Ils peuvent y aller, là, approuvé par qu'est-ce qu'on déguste, ils peuvent y aller sans aucun problème.
Enfin, surtout qu'on a vu qu'il y avait que de bonnes choses à l'intérieur, donc
oui.
Bon.
Oui, y aller.
C'est quand même intéressant.
Oui. Ah. Oui.
Vendu.
Morceau d'Afrobeat.
Ah bon, si tu veux. Moi j'étais parti. Je croyais que t'avais. Je croyais que t'avais lu un livre. Je croyais que t'avais lu un livre. On ramène une revue.
Semaine. Sinon j'ai une petite recette. Vérine crumble des amoureux avec des insectes. Mais je vais faire mon Pascal. Allez, il faut 4 pommes, 25 grammes de beurre. Je vais faire comme lui. Une cuillère à soupe de scorou, une cuillère à soupe de cannelle pour le caramel salé, 80 grammes de sucre en poudre et pour le crumble 50 grammes de farine blanche, 10 grammes d'insectes déshydratés. Vous irez chercher au 400 goûts. 50 grammes de beurre, 50 grammes de sucre, 50 grammes de poudre d'amande. On hache les insectes, on les mélange du bout des doigts avec tous les ingrédients et on cuit sur plaque à 180 degrés à surveiller. Donc on met les morceaux de pommes au fond de la vérine, on verse le caramel salé sur les morceaux de pommes et on parsème de crumble. C'est la vérine crumble des amoureux avec donc des petits insectes.
Et on précise pas quels insectes.
Insectes déshydratés. On prend ce
donc un peu du verre de farine, du grillon, de la crumble,
voilà,
du...
ou un petit mélange de tout.
Voilà, ou un mélange découverte.
Voilà. Crumble des
J'aimerais
amoureux.
J'aimerais bien, par contre, qu'on ne se quitte pas sans que vous ayez testé quand même le criquet. Le criquet, le fameux criquet que personne n'arrive à...
Il est où le criquet ?
Lille, je vous trouvais charmant.
Alors là, ça c'est le couvage.
Jusqu'à présent.
Mais quel criquet ? Il est où le criquet ?
Le fameux criquet ?
Non, mais il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Ah, mais non, il n'y en a pas.
Si,
mais
c'est
il est au fin fond du truc, là.
Ah, non. D'accord.
Non. Allez,
autant
regarde.
Pour moi, vous avez de la chance.
Non, mais le grillon.
Ouais, c'est pas bon.
Si, mais il est assez imposant.
Ouais, alors, parce que, est-ce que vous l'avez goûté, vous?
Non, pas du tout, c'est pour ça.
Ah, vous vouliez vous y attaquer. C'est plus gros, ça.
C'est très
gros.
Voilà.
Ouais. Dans cette boîte découverte, oui, il y en a, je crois. Oui.
Est-ce que tout le monde peut manger des insectes? Il y a des allergies?
Des allergies aux crustacés.
D'accord.
Crabes, crevettes, roses.
Donc les gens qui sont allergiques aux crustacés, voilà.
En sachant que c'est déshydraté à l'air chaud, c'est tout sec, il y a moins de risques que de manger que lorsqu'on mange une crevette fraîche.
Mais comment ils les tuent?
Ils congèlent.
Ils les endorment en douceur.
48 heures. Congèler 48 heures pour être sûr qu'ils soient vraiment morts.
Ah, c'est comme ça que ça marche. Donc on les prend, les congèle.
Après on les boue. Ils sont passés à ébullition.
D'accord.
Et oui.
Pendant qu'ils sont tout froids là. Hop.
Ouais.
On les chauffe. Ils ont chaud d'un coup.
Et ensuite, ils sont déshydratés par cuisson lente.
Parfumés, déshydratés, en sachet, etc.
Exactement.
Circuler, il n'y a rien à voir.
D'accord. Donc quand on bourre, tu crois qu'on fait un petit court bouillon, un truc comme ça? On met un bouillon cube dedans? Hop.
On doit pouvoir se cuisiner de la même manière que...
Oui, on doit pouvoir faire des soupes, des choses comme
bien
ça.
Bien sûr.
Oui, puis il y a plein d'endroits où ils sont frits dans l'huile. En Thaïlande, par exemple, des petites brochettes d'insectes frits dans l'huile. Là, c'est pas frit, c'est déshydraté.
Mais moi, sur un voyage à Pékin, j'ai dégusté des insectes frits comme ça en brochette. Hein. C'est dans les rues, ils en vendent partout. Hein. Voire vivants, même. Hein. Les fameux vers à soie, ils dégustent ça.
Vivant.
Non, ça ne vous dit pas les vers à soie.
Non, pas du tout.
Pas dans notre culture.
Lynn, qu'est-ce qu'il y a dans votre cuisine qu'il ne manque. Enfin, il ne manque jamais. Cet ingrédient ou cet ustensile dans votre cuisine?
Ah, du chocolat, bien sûr.
Toujours?
Toujours.
Noir?
Noir.
90%?
90%. 90%. On a lancé récemment des tablettes 85% et même 100%, parce qu'il y a des personnes maintenant qui sont en demande de tester du chocolat donc 100%.
Ouais.
Donc là pour le coup c'est vraiment sans sucre, on a vraiment la pleine puissance de la fève de cacao à l'état brut. Donc c'est vrai que pour les puristes c'est assez intéressant.
Voilà. Et vous cuisinez beaucoup avec le chocolat ?
Avec le chocolat cuisiné, non, j'ai pas encore testé. Non. Il paraît que ça se marie très bien avec la volaille.
Oui, non, mais le chocolat qui est une recette.
Mais par contre,
mexicaine,
oui, j'en mange beaucoup. Oui. Ça m'est déjà arrivé de faire un tour en voiture pour essayer de trouver une tablette de chocolat.
Ouais,
oui. Accro, hein.
D'ailleurs, il y aura le salon du chocolat samedi prochain à Montauban.
Et oui, ça tombe bien. Ouais.
J'ai une information de dernière minute. Ça vient juste d'arriver. C'est un Français qui vient de gagner la Coupe du Monde de la chocolaterie à l'instant. Vincent Vallée vient de gagner la Coupe du Monde de la chocolaterie au Salon du Chocolat à Paris.
L'excellence française.
Et je vous présenterai un bouquin, d'ailleurs, étrange.
On ne pourrait pas dire qu'il valait rien, quoi.
Emmanuel, la dernière fois que vous avez cuisiné pour plaire, c'était quand?
Pour séduire, qui est l'énoncé original de la question.
Une réponse que très crédible, que tout le monde va croire.
Oui.
Tous les soirs, bien sûr.
Oh, ça c'est bien. Oui, mais encore, on veut une recette.
Oh là là, une recette. Bah moi, ça sera certainement un plat un peu exotique et surtout très parfumé, avec beaucoup d'épices et beaucoup d'aromates. Ça c'est vraiment.
Comme à la Réunion, finalement. Ouais, voilà. C'est ça, le mélange des saveurs.
Un bouquet saucisse, un curry avec du curry, du curcuma, du gingembre. J'adore le gingembre.
Est-ce qu'on trouve ces bonnes épices dans votre magasin?
Oui, monsieur.
On a le mélange tout prêt pour le rougail, des choses comme ça.
On a une sauce pour rougail, une sauce pour curry. On a des achars légumes, achars mangue, achars citron. On a même un rougail saucisse.
Qui est de
bonne qualité, vraiment. C'est bon, c'est pas le rougail fait dans la cuisine, feu de boîte, tati grondin, mais franchement.
Mais c'est en boîte, c'est comment?
Il est en conserve.
D'accord.
Il est en conserve.
Et on trouve tout ça au 400 goûts.
Monsieur.
Et oui.
Je voulais vous parler avant que ça ferme, d'un très 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 beau bouquin, de Pierre Marcolini. Vous connaissez sans doute Pierre Marcolini,
chocolatière. Oui, bien sûr.
Dire qui c'est, Pierre Marcolini.
Le grand chocolatier, oui.
Et oui, c'est un grand artisan amoureux du chocolat. Il est, aujourd'hui l'ambassadeur de la haute chocolaterie à travers le monde. Il accumule les meilleurs, prix, les titres prestigieux. Il a été champion du monde de pâtisserie en 1995. Ce monsieur-là, il a des boutiques partout dans le monde.
Effectivement, il accumule. Hein.
Ouais. Et alors, tu vois, c'est quand même un très, très, très joli bouquin. Donc aujourd'hui, il torréfie lui-même son chocolat. Donc,
et il y en a très peu en France qui le font, les artisans qui le font eux-mêmes. C'est assez rare, oui.
Donc on essaiera d'avoir...
Il y a plus de trois en France. Mm.
Pierre Marcolini au téléphone lors du Salon du Chocolat la semaine prochaine. Nous serons en direct du Salon du Chocolat du Kiwanis.
Encore une crise de foi en perspective.
Et puis aussi un autre beau bouquin de Christophe Felder, que tu dois connaître, Christophe Felder.
Je connais.
Hein, Christophe Felder, qui est un grand pâtissier. Très beau bouquin aussi, 150 petits gros gâteaux.
Eh ben, je vois que le service de presse fonctionne correctement.
Et donc, nous l'aurons aussi au téléphone très prochainement pour présenter ce bouquin-ci. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Que ce week-end, il faut pas rater Halloween, que ça passe par deux boutiques au moins à Montauban. Trois boutiques du coup, alors les deux boutiques Alexandre pour Halloween, et puis la boutique des 400 goûts. Qui va être, je sais pas, il y a des citrouilles, des choses comme ça.
Bon, deux insectes, je pense que c'est largement suffisant.
Ouais.
Des insectes secs.
Tout à fait. Déshydratés.
Est-ce que vous aurez des bonbons pour donner aux enfants qui vont faire le tour?
Ça a déjà commencé aujourd'hui.
Ouais.
Un bonbon ou un sort.
Et alors?
Ça a déjà commencé.
Faut leur donner des grillons?
Non.
Des insectes.
Non, c'est ce qu'on va faire.
Essayez donc de passer pour voir. Tiens. Merci Christophe.
Avec plaisir.
La semaine prochaine, donc, à la même heure, nous serons en direct. Du salon du chocolat du Kiwanis. Ce sera pour la bonne cause, hein. Ce sera 2,50€ l'entrée de ce salon du chocolat. Ça ouvrira les portes à partir du vendredi après-midi jusqu'au dimanche soir. Et donc, beaucoup d'animations, beaucoup d'exposants. Nous, on y sera en direct live le vendredi soir.
Ne pas oublier que ce soir que Christophe mixe. Là, en sortant de l'émission, il part chez Lulu, voilà, en courant pour mixer.
J'embarque mes disques à partir de 19h30 chez Lulu La Nantes, place du Coq, toute la soirée.
D'accord.
Ben alors, on va aller quelque part par là-bas. Si vous avez raté toute partie de cette émission, vous la retrouverez peut-être en podcast si on a le temps sur cfmradio.fr. Les photos sont déjà sur la page Facebook. Bah oui, il faut cliquer j'aime, c'est tout. Salut, merci.
Au revoir,
merci
à tout le monde.
Merci à tous.
À la prochaine.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.